Et voici la revue de presse internationale de Camille Magnard. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Il faisait hier 28 degrés sous un ciel plutôt dégagé à Honolulu sur l'archipel américain d'Hawaï.
Oui, si j'ai choisi de commencer cette revue de presse par un peu de météo, ce n'est pas pour vous donner des idées de vacances, mais pour marquer le contraste avec la journée qu'ont vécu les Australiens ce jeudi. La journée restera comme l'une des plus chaudes dans l'histoire du pays. 40 degrés dépassés à peu près partout, jusqu'à 50 degrés dans les terres du Queensland, comme le relève The Australian. Et forcément, ça ne fait qu'attiser les feux de forêt cataclysmiques qui ravagent le bush australien depuis des semaines déjà. À Sydney et Melbourne, des millions d'habitants respirent un air vicié, intoxiqué par les fumées qui plongent les deux métropoles dans un halo jaunâtre. Et pas plus tard qu'hier, deux pompiers volontaires de cette région des Nouvelles-Galles du Sud ont trouvé la mort en tentant de ralentir la progression des flammes. Deux amis, deux pères de famille dont le Sydney Morning Herald dresse ce matin le portrait.
Alors, pourquoi donc Honolulu?
Eh bien, c'est justement la question que se posaient ces derniers jours les citoyens d'Australie et leurs médias. Car Honolulu, c'est la destination qu'avait choisi le Premier ministre australien Scott Morrison pour partir en vacances avec sa famille. Hawaï et son climat tempéré où le leader conservateur passait du bon temps, à croire les selfies qui avaient fuité de ce congé. Un congé prévu de longue date et en maintenant ses vacances alors que son pays brûle littéralement, Scott Morrison a choqué l'opinion australienne. C'est vraiment le moins que l'on puisse dire. Pour Geoff Chambers, à lire dans The Australian, l'idée même d'avoir maintenu ses vacances d'avant Noël dans les circonstances que traverse le pays était ridicule et mal avisée. Mais ce qui aggrave le cas du Premier ministre, c'est que son équipe a tenté dans un premier temps d'étouffer l'affaire, d'empêcher les journalistes de savoir où était le chef du gouvernement, pour y faire quoi, etc. Au final, après enquête des médias, on a donc compris que Scott Morrison était allé respirer le bon air d'Honolulu. Mais ce vendredi, une fois découvert, le vacancier s'est fendu d'un communiqué d'excuses et de condoléances aux familles des pompiers décédés à la radio 2GB. Il a aussi exprimé ses regrets profonds que ses concitoyens aient pu considérer son absence comme une offense, un abandon. Et il a annoncé qu'il allait rentrer à Sydney au plus vite.
Et ses regrets n'ont pas vraiment calmé le feu des critiques contre le Premier ministre.
Et dans son édition australienne The Daily Mail nous apprend qu'une pétition exigeant la démission de Scott Morrison a déjà récolté 65 000 signatures. Le tabloïd note aussi la nouvelle maladresse de Morrison dans son interview radiophonique quand il déclarait que de toute façon ce n'est pas moi qui tiens la lance à incendie. Manière de dire que s'il avait été là, ça n'aurait pas changé grand chose à l'ampleur de la catastrophe naturelle. Et bien, pour répondre à cet aveu d'impuissance, le site d'info Independent Australia liste 11 mesures que le chef du gouvernement aurait pu mettre en place au lieu de prendre la tangente. Par exemple, déclarer l'état d'urgence, aller rencontrer les pompiers sur le terrain plutôt que de répéter qu'ils font un travail formidable depuis son bureau climatisé, donner des moyens étendus aux services d'urgence qui sont trop souvent démunis, ou encore agir vraiment contre les émissions de gaz à effet de serre en Australie. Car c'est l'autre erreur politique reprochée à Scott Morrison, entre autres par David Crowe du Sydney Morning Herald, sa réticence depuis des semaines à faire le lien entre les incendies monstres et le réchauffement climatique. Bien plus grave que ces vacances malvenues et le mystère qui les a entourées. Sur ce sujet-là, Morrison ne fait qu'esquiver là où on attendait de lui un discours fort et clair, écrit David Crowe. Un Premier ministre qui fait la sourde oreille, donc depuis le départ sur cette question du réchauffement climatique, comme le résume Geoff Chambers dans The Australian, la fuite à Honolulu n'aura finalement été que l'allégorie d'une critique beaucoup plus profonde.
Et sur le calendrier électoral du week-end, Camille, des législatives particulièrement attendues en Ouzbékistan.
Et oui, cette république issue de l'éclatement de l'URSS en Asie centrale organise dimanche ses premières élections législatives depuis la mort de son dictateur Islam Karimov. Un nouveau parlement pour un nouvel Ouzbékistan, c'est le slogan officiel repris pour nous par la BBC. Et c'est bien là toute la question. À quel point ce vent d'ouverture, de démocratie qui est censé souffler sur le pays va-t-il vraiment se retrouver dans les urnes? On se le demande, d'autant plus qu'il y a des signes encourageants. La presse ouzbek, à commencer par le site gazeta.ouz, se félicite depuis hier du fait que The Economist, très prestigieux hebdomadaire britannique, a fait de l'Ouzbékistan rien de moins que le pays de l'année 2019 pour justement ses progrès démocratiques. Bon, il faut quand même savoir qu'on part de très loin. L'Ouzbékistan, depuis son indépendance en 1991 et sous la férule donc d'Islam Karimov, était devenu l'un des pays les plus répressifs au monde pour tout ce qui pouvait ressembler à une opposition politique ou à une forme de liberté d'expression, ce que The Economist résume par 27 années de brutalité, d'incompétence et de violations terrifiantes des droits humains. Mais le Newsmag note surtout que depuis la mort, en 2016, du despote Karimov, l'Ouzbékistan, désormais dirigé par Shavkat Mirziyoyev, va dans la bonne direction. Rien que cette année, il a officiellement aboli l'esclavage et les travaux forcés dans ses camps d'emprisonnement de prisonniers politiques. D'ailleurs, certains de ses prisonniers les plus anciens et les plus emblématiques ont été libérés. Le pays s'est considérablement ouvert sur l'extérieur aussi, au tourisme principalement, avec des arrière-pensées clairement économiques autour des villes mythiques de Samarcande, Boukhara et Khiva. Tout ça est en partie vrai, mais attention tout de même à ne pas se laisser éblouir, tempête dit Economist, à propos des élections de dimanche, qualifiées de semi-sérieuses seulement, pour la bonne raison qu'aucun candidat de réelle opposition au président Mirziyoyev n'a pu se présenter. Alors certes, confirme la radio internationale américaine Radio Liberty, les candidats se permettent des critiques sur la politique menée par le gouvernement central, ce qui aurait été impossible il y a encore 3 ans, mais parler de pluralisme, d'opposition véritable, c'est se faire des illusions. La BBC cite même la crainte du parti d'opposition ERC de voir le pouvoir se durcir encore plus après ce scrutin démocratique de façade. Alors comme le dit Radio Liberty, il ne faut pas trop en attendre des élections ouzbèques.